Imagine la scène. Un homme fait un arrêt cardiaque massif en plein hôpital.
Ouais, le cauchemar absolu.
C'est ça. Les manœuvres de réanimation échouent totalement. Il est officiellement déclaré mort. Et là, 40 minutes s'écoulent.
40 minutes ? C'est énorme, hein, médicalement.
Ah bah, ses doigts et ses orteils commencent littéralement à noircir par manque d'oxygène. L'infirmière prépare le corps pour la morgue et soudainement, après une simple prière, le cœur repart.
C'est déjà incroyable, mais...
Attends, le plus foudroyant, c'est pas ça. C'est que quelques jours plus tard, ce mec est assis dans son lit, il discute normalement et son cerveau est totalement intact.
Ah ouais, zéro séquelle.
Zéro. Et ça, c'est pas tiré d'un vieux parchemin mystique du Moyen-Âge, hein. C'est un dossier médical du 21e siècle, rédigé par des cardiologues. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant.
Bah oui, parce que c'est exactement le genre de cas qui bouscule complètement nos catégories occidentales. D'habitude, face à la médecine, on a une certitude un peu comme en ingénierie, quoi.
Oui, très binaire.
Exactement, t'as une radio, tu vois une fracture nette, le médecin pointe le truc avec son stylo, et bam, l'affaire est classée, le monde est super ordonné.
Et on adore ça, enfin, la machine à rayons X, elle nous rassure parce qu'elle dit, bah voilà, ça c'est possible, ça c'est impossible.
C'est clair.
Mais aujourd'hui, pour ceux qui nous écoutent, notre mission, c'est de plonger dans une analyse vraiment fascinante. On se base sur la quatrième session d'une série de conférences académiques du chercheur et historien, le docteur Craig Kinner.
Et le grand écart qu'il fait est dingue.
Carrément. On part d'un document antique, le livre des Actes des Apôtres, qui a une structure littéraire genre maniaque, pour finir le nez dans des revues médicales modernes. Des revues évaluées par des pairs, hein, qui documentent l'indocumentable.
Et pour bien comprendre l'ampleur du problème, il faut d'abord regarder ce texte de base. Les Actes des Apôtres, ça tombe pas du ciel.
Non, c'est la suite d'un autre bouquin.
Voilà. L'auteur, que la tradition appelle Luc, a en fait écrit une œuvre en deux volumes. Le volume 1, c'est l'Évangile, la vie de Jésus. Le volume 2, les Actes, c'est la naissance de l'Église primitive avec des gars comme Pierre et Paul.
Ok.
Et la prouesse de l'auteur, c'est qu'il utilise un genre littéraire super à la mode dans l'Antiquité, ce qu'on appelle les vies parallèles.
Ah oui, le concept de... Enfin, c'est popularisé par l'historien grec Plutarque, c'est ça?
Exactement. Plutarque s'en servait pour comparer des grands hommes, genre un conquérant grec d'un côté, un dirigeant romain de l'autre. Et Kinner démontre que Luc, bah, il applique cette même matrice entre son premier et son deuxième volume, mais avec une précision chirurgicale.
Mais du coup, concrètement, ça ressemble à quoi cette symétrie dans le texte?
Bah, c'est au millimètre. Par exemple, au début du premier livre, Jésus reçoit le Saint-Esprit en citant directement Ésaïe.
D'accord.
En miroir parfait, dans le volume 2, l'Église naissante reçoit l'Esprit, mais cette fois en accomplissant une prophétie de Joël. Ensuite, Jésus guérit des paralysés. Et bam, quelques chapitres plus loin dans l'autre livre, Pierre et Paul font exactement la même chose.
Ah ouais, c'est du copier-coller thématique.
C'est ça. Ça va même jusqu'au système judiciaire, Yazek. Jésus subit 3 procès à la fin de sa vie, 2 devant des gouverneurs romains, 1 devant Hérode Antipas. Des décennies plus tard, Paul subit 3 procès pareils, 2 devant des Romains et 1 devant Hérode Agrippa II.
Il y a même un écho au moment de la mort, non? Quand Jésus est sur la croix, il dit « Père, pardonne-leur ». Et Étienne, le premier martyr dans les Actes, il est en train de se faire lapider et il crie quasiment la même phrase, genre « Seigneur, ne leur impute pas ce péché ».
Ouais, c'est fascinant de voir à quel point tout est lié.
Pour ceux qui nous écoutent, imaginez un peu la production d'une grosse suite de films hollywoodiens aujourd'hui. Le réalisateur doit s'assurer que le deuxième film réponde au premier plan par plan. Sauf qu'à l'époque, le budget pellicule, c'était le papyrus et c'était une contrainte absolue.
Ah bah, le papyrus au 1er siècle, c'est pas un bloc-notes, hein. Kinner rappelle qu'un rouleau vierge, c'était un investissement financier massif.
C'était cher à ce point-là?
Bah, pour te donner une idée, écrire un texte moyen comme l'Épître aux Romains, ça coûterait l'équivalent de 2000 dollars américains d'aujourd'hui.
Non mais sérieux? 2000 dollars juste pour le support de base?
Ouais, et l'Évangile de Luc et les Actes, ils poussaient la technologie de l'époque à sa limite physique extrême. Ils atteignaient la taille maximale possible pour un rouleau avant qu'il ne se déchire sous son propre poids.
Donc on parle de quoi? Une dizaine de mètres?
C'est ça, environ 10 mètres. Donc Luc n'avait vraiment pas le luxe de raconter des détails inutiles. Chaque centimètre coûtait une fortune et devait faire avancer son intrigue de vie parallèle.
Et ça servait aussi un but légal, en fait. Kinner explique que ce texte, c'était presque apologétique. L'auteur compilait des dossiers pour montrer que chaque fois que les chrétiens passaient devant un tribunal romain, ils étaient déclarés non coupables de rébellion.
C'est une vraie jurisprudence.
Exactement. C'était une arme légale pour les croyants de l'époque. Mais du coup, ça soulève une question géante. Si ce Mac Luc était un historien aussi méticuleux, s'il calculait le coût de chaque phrase sur un support hors de prix.
Pourquoi remplir son texte de trucs impossibles ?
Voilà. 20% du livre des Actes parle de miracles, d'exorcismes, de choses qui défient la physique.
Et c'est ce paradoxe qui a rendu les Occidentaux complètement fous pendant des siècles. On s'est dit, ok, les détails géopolitiques sont vrais, mais on jette tous les miracles à la poubelle, c'est des mythes.
Le fameux biais occidental.
Complètement. Kinner cite un philosophe allemand du 19e siècle, David Friedrich Strauss, qui a vraiment théorisé ça. Strauss disait que les miracles antiques, c'était forcément des légendes collectives. Son idée, c'est qu'un mythe met des générations à se former.
Donc en gros, aucun témoin oculaire direct ne raconterait des trucs pareils de son vivant.
Exactement. Sauf que Strauss lui-même a vécu un truc super ironique. Il avait un ami très proche, Edward Morica, qui avait une maladie grave de la colonne vertébrale.
Ah quand, c'était un vrai diagnostic, pas juste un mal de dos ?
Un vrai diagnostic médical de l'époque. Il était invalide, il ne pouvait plus marcher. Et puis, cet ami passe du temps avec un pasteur luthérien, Blumhardt, connu pour prier pour les malades.
Et là, miracle ?
Bah, Strauss reçoit une lettre sidérante. Son ami Morica lui écrit pour dire qu'il est complètement guéri. Et qu'il est parti faire de la randonnée en montagne.
Randonnée en montagne, avec une colonne vertébrale détruite de la veille. Et du coup, la réaction de Strauss, le grand sceptique, il a changé d'avis ?
Pas du tout. C'est le biais cognitif ultime. Il a écrit une connaissance commune en disant « On a perdu Morica ». Il a décrété que son ami avait sombré dans la superstition et que la guérison était forcément psychosomatique.
Ah, c'est le serpent qui se mord la queue. Puisque le miracle n'existe pas dans ma théorie, la guérison doit être psychologique, ce qui prouve que le miracle n'existe pas.
Raisonnement circulaire parfait.
Après, je me fais l'avocat du diable une seconde. Douter d'une maître qui parle de randonnée, c'est aussi faire preuve de bon sens, non Evra ? La science, ça exige des preuves reproductibles, des variables isolées, pas juste des anecdotes. C'est normal d'être sceptique.
Ah mais cette objection est totalement valide. La science expérimentale a besoin de reproductibilité. Mais Kenner explique qu'il y a une erreur de catégorie ici. L'histoire, c'est pas de la chimie.
Comment ça ?
Bah, tu peux pas assassiner Jules César une deuxième fois dans un labo pour vérifier l'angle du poignard, tu vois.
Ah ouais, très bon point.
L'histoire, le droit, la sociologie, ça repose sur le témoignage oculaire. Si t'as un accident de voiture, 3 témoins directs sur le trottoir auront toujours plus de poids juridique que 10 000 personnes qui n'étaient pas là et qui jurent que l'accident n'a pas eu lieu.
Le témoignage bat le scepticisme de l'absence. Mais bon, Kinner sait très bien que l'homme moderne veut des preuves dures, des trucs en laboratoire. Et c'est pour ça qu'il sort carrément des textes antiques pour ouvrir des dossiers médicaux modernes.
Et là, le changement d'ambiance est brutal.
Grave. On passe aux études menées au Mozambique, par exemple. Des cas de surdité guéris instantanément. Et on parle pas de gens qui disent « Oh, j'entends un peu mieux ». Les chercheurs avaient des équipements d'audiométrie pour tester les décibels avant et juste après la prière.
Et les résultats ?
Des améliorations massives sur des nerfs auditifs qui étaient bousillés. Et ces données, elles ont été publiées dans le Southern Medical Journal en 2010. Puis carrément par les presses de l'université de Harvard.
Ah oui, donc c'est pas un blog obscur. Le Southern Medical Journal, ça veut dire que des médecins indépendants ont cherché la moindre faille méthodologique et n'ont rien trouvé. Zéro fraude.
Et le truc psychosomatique de Strauss, ça marche plus du tout ici. Le stress peut bloquer la douleur, ok, mais ça répare pas des nerfs. Et encore moins des os. Prends le cas de Lisa Larios.
Ouais, cette histoire est folle. Elle avait une maladie dégénérative qui lui rongeait les os. Elle était en fauteuil roulant.
Et pendant un rassemblement, elle se lève d'un coup. Mais le plus fou, c'est les examens radiologiques qui suivent. C'est pas juste qu'elle a plus mal. Les radios montrent que l'os s'est physiquement reconstruit. L'architecture interne s'est reformée.
C'est biologiquement impossible selon les lois de l'orthopédie. Et pourtant, c'est documenté. Mais honnêtement, je trouve que le cas de Bruce Vanatta va encore plus loin dans le défi anatomique.
Ah, l'homme écrasé par le camion.
Ouais, un traumatisme abdominal cataclysmique. Après plein d'opérations, les chirurgiens ont dû lui amputer la majeure partie de son intestin grêle parce qu'il était nécrosé.
Faut qu'on décortique ça. Un intestin humain adulte, ça fait genre 3,5 mètres. C'est là qu'on absorbe les nutriments vitaux.
C'est ça. Et après l'opération, il ne restait à Vanatta que 116 cm d'intestin. 116. Son corps ne pouvait physiquement plus absorber assez de calories. Il mourait de faim de l'intérieur, il avait perdu des dizaines de kilos.
Et là, quelqu'un vient prier pour lui à l'hôpital.
Et l'imagerie médicale confirme un truc qui fait bugger le cerveau. Son intestin a poussé. Il a grandi pour atteindre près de 300 cm de long.
Mais l'intestin, ça s'allonge jamais tout seul. Le diamètre peut s'élargir un tout petit peu pour compenser, mais fabriquer de la matière organique en longueur...
C'est ce que je dis souvent, c'est l'analogie de la plomberie. T'imagines, t'as un tuyau en cuivre coupé dans ta salle de bain, tu le regardes, et d'un coup, le tuyau secrète du métal à partir du vide, il s'allonge sur un mètre et va se reconnecter tout seul à l'évier.
C'est de la création de tissus in vivo, c'est de la science-fiction.
Exactement. Et on retrouve cette même disparition des lois du traumatisme avec Karl Cockerell. Il se fracture la cheville, une cassure super nette sur la première radio. On l'immobilise, il prie, la douleur disparaît. 8 jours après, nouvelle radio de contrôle.
Et le médecin s'attend à voir un os en train de guérir, logiquement.
Bah non, le diagnostic est juste impensable. L'os n'y a pas guéri super vite. Non, la nouvelle radio montre un os qui, cliniquement, n'a jamais été cassé.
Le cale fracturaire a disparu ?
Inexistant. La cicatrice même du traumatisme a été effacée de l'histoire biologique de son corps.
Mais c'est vertigineux. Parce que si on accepte que des os peuvent oublier leur traumatisme ou que des organes peuvent se matérialiser, on arrive forcément à la frontière ultime.
La mort.
Voilà. Qu'est-ce qui se passe quand le corps ne fait pas que dysfonctionner, mais s'arrête complètement ?
Ouais.
C'est le sommet des conférences de Kinner. Il plonge dans des cas cliniques de résurrection qui défient la mort cérébrale par hypoxie.
Et on revient à l'histoire de notre intro. Le cardiologue, le docteur Chauncey Crandall, avec son patient Jeff Markin. Arrêt cardiaque, aucun pouls pendant 40 minutes.
Médicalement, l'hypoxie, c'est implacable. Sans oxygène, à température ambiante, les cellules de ton cerveau commencent à mourir en 4 à 6 minutes.
Ouais.
Au bout de 40 minutes, les membranes des neurones se désintègrent. Le tissu cérébral commence littéralement à se liquéfier. C'est irréversible.
Et le docteur Crandall confirme bien l'asphyxie totale. Jeff Markin avait les doigts noirs, et Siano s'était avancé. Et pourtant, ce dernier choc de défibrillateur, après une prégère, le moniteur repart.
Et le vrai miracle, c'est pas le cœur, c'est son cerveau.
C'est ça. Quelques jours plus tard, le mec parle normalement, zéro déficit cognitif. Le cerveau liquéfié a dû être restructuré dans son intégrité d'origine à la seconde de la réanimation.
Et ce qui est fou, c'est que c'est pas un cas isolé. Kinner documente aussi Timothy Olomar canadais au Nigeria, déclaré mort après un accident mis à la morgue. 8 heures plus tard, à 3 heures du mat, la rigidité cadavérique recule et le corps se met à bouger.
8 heures dans une morgue.
8 heures. Il a fallu soigner ses os cassés après, bien sûr, mais son cerveau, intact, aucune séquelle de ses 8 heures d'arrêt.
Il y a aussi le docteur Sean George en Australie, mort pendant 55 minutes sous les yeux de ses propres confrères à l'hôpital. Et ce jeune Indien Vikram qui s'est noyé.
Ah oui, le cas de noyade. Mais Kenner précise un truc vital sur Vikram. Il s'est noyé dans un bassin d'eau chaude.
Pourquoi c'est important ?
Parce que l'eau glacée peut parfois ralentir le métabolisme et protéger un peu le cerveau. Mais l'eau chaude, ça annule ce mécanisme. Plusieurs médecins l'avaient déclaré mort. Et pourtant, après l'intervention d'un groupe en prière, l'enfant s'est réveillé avec toutes ses facultés.
Bon, là on est obligé de poser la question pragmatique. L'histoire est bourrée de récits lugubres du 19e siècle. La catalepsie, le choléra, des gens déclarés morts par erreur parce que le cœur battait trop faiblement. Est-ce que c'est pas juste des gros ratés de diagnostic médical ?
L'argument de la fausse mort est super logique. Mais Kinner le démonte avec des pures probabilités mathématiques. Il dit pas que l'erreur médicale n'existe pas. Mais lui et sa femme ont identifié, juste dans leur entourage direct, une dizaine de cas validés médicalement.
Juste autour d'eux ?
Ouais. Donc si la catalepsie expliquait tout ça, ça voudrait dire que l'erreur de diagnostic mortel est tellement banale que chacun de nous devrait avoir des morts vivants dans ses contacts téléphoniques.
En gros, les hôpitaux du monde entier enverraient des gens vivant à la mort à une échelle industrielle, tous les jours.
C'est ça. Statistiquement, ça tient pas. Si t'as une chance sur 10 de connaître une victime, regrouper 10 cas autour de la même personne par hasard, c'est une probabilité d'une chance sur 10 milliards.
Une chance sur 10 milliards. C'est comme gagner le loto plusieurs semaines de suite avec les mêmes numéros. Astava, c'est plus une anomalie, c'est un motif. Et surtout que ça tombe pas du ciel, ça arrive spécifiquement pendant des moments de prière ciblés.
Exactement. Et pourtant, avec toutes ces probabilités impossibles, ce que j'aime chez Kinner, c'est qu'il n'y a aucun triomphalisme. Le miracle, pour lui, c'est pas un code de triche de l'univers.
Oui. Si ça marchait à chaque fois sur commande, ça serait une nouvelle loi de la physique, plus un miracle.
Et son humilité est désarmante. Cet homme, qui a des montagnes de preuves sur des intestins qui repoussent, il porte des lunettes parce que sa vue baisse. Il perd ses cheveux.
Et il y a ce drame personnel aussi.
Ouais. Lui et sa femme ont fait face à de multiples fausses couches. Leurs prières n'ont pas ramené leur bébé, la guérison n'est pas venue. Et le docteur Crandall, celui qui a ramené Jeff Markin à la vie, il a perdu son propre fils, jumeau d'une leucémie.
L'impuissance totale, malgré la médecine et la foi.
Et c'est ça l'intégrité intellectuelle de Kinner. Il refuse d'utiliser ces tragédies non résolues comme excuse pour censurer les cas où l'inexplicable se produit vraiment. Il demande juste de regarder toutes les données, sans refaire le coup de Strauss qui ferme les yeux face à son ami guéri.
C'est vraiment la question ultime de cette exploration. De l'optimisation du papyrus antique radio moderne, on est obligé de se demander si notre vision de la réalité, c'est pas juste du confort intellectuel.
C'est clair.
Si un seul de ces cas documentés, juste un seul, est vrai, un os qui se crée du néant, un intestin qui rallonge d'un mètre, ou un cerveau qui redémarre après 40 minutes de mort. Si un seul est vrai, comment ça redéfinit les lois qui régissent notre univers?
Ça change tout.
Notre réalité est bien plus vaste que les murs de nos laboratoires. C'est vraiment une invitation, pour ceux qui nous écoutent, à garder une méthode scientifique rigoureuse, oui, mais avec un esprit fondamentalement ouvert au mystère.